Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Yann Bouchery. Bonjour Yann.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
En pleine période de grève contre le projet de réforme des retraites, certains seniors choisissent de reprendre leur activité.
Illustration dès le début de ce journal dans le Maine-et-Loire pour pallier le manque de médecins. Dans l'actualité également, la riposte sanglante des États-Unis contre l'Iran. Un bombardement sur l'aéroport de Bagdad a tué l'un des plus hauts gradés de l'armée de Téhéran. En France, quelle application pour le bonus-malus de l'assurance chômage depuis le 1er janvier? S'agit-il d'une réforme à deux vitesses? Ce sera la question du 8h. En Australie, les incendies provoquent un véritable exode de la population. La marine a évacué des centaines d'habitants piégés par les flammes près de Melbourne. Et puis les sports, le petit club de l'INAS Montlhéry se prépare à affronter le PSG en Coupe de France avec un entraîneur dont le chat se prénomme Zlatan. Tout un programme.
Notre météo avec vous, Marina Giraudeau.
Un ciel nuageux et quelques averses sur les deux tiers du pays. Ce sera sec mais voilé vers les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Et dans l'après-midi, retour quand même du soleil, mais seulement sur les côtes de la Manche. Et les températures qui remontent ce matin, comme cet après-midi, 10 degrés à Lille cet après-midi, 11 à Paris et 12 à Bordeaux.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Alors que des milliers de Français se battent depuis un mois pour le maintien de leur âge de départ à la retraite, direction Saumur pour débuter ce journal, avec des médecins qui ont cessé leur activité, parfois depuis plusieurs années, et qui ont décidé de reprendre le collier, ou plutôt le stéthoscope. Leur démarche se veut solidaire afin d'éviter un véritable désert médical. Selon l'assurance maladie, il y a un an, plusieurs milliers d'habitants n'avaient pas de médecin. Patrice Gabart.
On a re-signé pour, en théorie, 5 ans. Quand on arrête la médecine, on a la pression d'un vide. On a une expérience. Et du jour au lendemain, on se dit, on ne va pas la transmettre, cette expérience. Et donc, on a envie de continuer quand même.
Parti à la retraite en mars 2016, le docteur Gilles Bontemps a repris du service il y a un peu plus d'un an, comme salarié du Centre communal de santé de Saumur, dans le Maine-et-Loire, une structure créée par la ville fin 2018 pour répondre à la pénurie de généralistes, puisqu'à la naissance du projet, environ 6000 Saumurois n'avaient pas de médecin traitant.
Nous sommes 10 médecins retraités désormais. On travaille en moyenne une journée par semaine, deux chaque jour. Et en plus, nous avons deux internes.
Plus que les petites annonces, c'est le bouche à oreille qui fonctionne, et la dernière recrue, le docteur Jacques Baudin, 70 ans, a commencé hier.
Alors évidemment, j'ai remis le nez dans mes bouquins. Quand on a exercé pendant 40 ans, on retrouve un petit peu les bonnes cases, quoi, facilement, rapidement. Je pense que je peux rassurer les patients.
Paris gagné en 14 mois, le centre compte 2136 patients, dont Catherine.
Il n'y avait pas de médecin traitant pour me prendre. Donc j'allais à la pharmacie chercher des médicaments comme ça pour me soigner. Quand ils sont ouverts, j'ai pu être soignée normalement. C'est génial, heureusement qu'ils sont là, franchement, parce que là, autrement, c'est l'enfer. On peut leur dire un grand merci.
Yves Leprêtre, directeur des services de la ville.
C'est un projet qui nous coûte à l'année, c'est un budget de 300 000 euros. Mais en même temps, c'est le prix à payer pour que tous les Saumurois aient accès à la santé.
Et dès la semaine prochaine, le centre de santé de Saumur, qui vient de se doter d'une voiture électrique, proposera aussi des visites à domicile.
Le reportage de Patrice Gabart à Saumur, dans le Maine-et-Loire, pour RTL.
Une bonne nouvelle en ce 30e jour de grève dans les transports. Le trafic sera normalement plus dense pour le retour des vacances de Noël.
Oui, dès aujourd'hui, la SNCF prévoit une nette amélioration avec 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2 et 1 Intercité sur 3. Des chiffres qui ne devraient pas baisser jusqu'à la fin du week-end. En revanche, la semaine prochaine s'annonce corsée avec une journée d'action le 9 janvier. Depuis les vœux présidentiels et le fameux compromis à trouver rapidement, on le sait, le Premier ministre se trouve sous pression. William Galibert, Édouard Philippe réunit les principaux ministres concernés par cette grève et c'est ce matin à Matignon.
Oui, une réunion pour l'image d'abord. Il faut être présent, se montrer au travail, mobiliser pour trouver une sortie de crise, pour que les caméras ne soient plus uniquement braquées sur les grèves qui se poursuivent ou sur les blocages de raffineries et de dépôts de bus. Autour d'Édouard Philippe ce matin, les ministres en première ligne dans ce dossier, notamment le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, et le nouveau monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski. Un point sur la situation, sur l'avancée des négociations. Un plan de bataille aussi, quelle marge de manœuvre, quelle stratégie avant la reprise des rencontres avec les syndicats, même si les contacts téléphoniques ont été permanents ces derniers jours. Il y a un recul de la grève et le fil n'est pas rompu avec les syndicats, veut se convaincre un conseiller. Un ministre, lui, ne sous-estime pas la difficulté des jours à venir. On a moins de 3 semaines pour parvenir à un accord. Disons que c'est un challenge important, conclut-il.
Éclairage signé William Galibert. Et dans le domaine aérien, un préavis de grève a été déposé pour lundi et mardi chez les pilotes, les hôtesses et les stewards. Ils veulent des assurances supplémentaires du gouvernement concernant le maintien de leur caisse de retraite complémentaire.
Et à 8h20, notre grand débat d'éditorialistes aujourd'hui. Après les retraites, les municipales, ils vont s'affronter tous les deux, en l'occurrence. Ce matin, Guillaume Roquette et notre camarade Nicolas
Domenach.
Merci. Excusez-moi, on était en train de me parler. Une heure peut-être.
RTL Matin, 8h05.
Faut-il craindre un embrasement au Moyen-Orient ? La question est clairement posée ce matin après les frappes américaines de la nuit en Irak.
Oui, sur ordre de Donald Trump, des hélicoptères ont bombardé un convoi sur l'aéroport de Bagdad, deux jours après l'attaque de l'ambassade des États-Unis par des manifestants pro-iraniens. Bilan, 8 personnes ont été tuées, parmi lesquelles Qassem Soleimani, général des gardiens de la Révolution, le chef de l'unité d'élite des forces Al-Quds. Brice Dugénie, bonjour.
Bonjour.
Il s'agit d'un des plus hauts gradés de l'armée iranienne, dont la mort a été confirmée par la télévision nationale de Téhéran.
Absolument, c'était un homme très influent militairement, mais plus globalement, même politiquement au sein du régime iranien. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent en France d'un conseiller militaire de président ou d'un chef d'état-major des armées. En fait, la force Al-Quds qu'il dirigeait était en charge des opérations extérieures de l'Iran. C'est-à-dire que au Liban, en Syrie, en Irak, c'est lui qui assurait l'influence et la domination iranienne au Moyen-Orient. Par exemple, c'est lui qui a été à la manœuvre avec ses hommes pour sauver le régime de Bachar al-Assad en Syrie et ainsi accroître l'influence de Téhéran dans cette zone. Si Donald Trump et les États-Unis ont bombardé son véhicule à Bagdad, c'est qu'ils le jugent responsable des attaques récentes contre les intérêts de Washington. À 62 ans, derrière une barbe blanche finement taillée, Qassem Soleimani était un homme discret qui prenait ses ordres directement de l'ayatollah Khomeini, dont il était un proche. Face à cette attaque directe d'ailleurs, le guide suprême Khamenei annonce ce matin qu'une terrible vengeance attend les Américains et on sait que les Iraniens, notamment grâce aux gardiens de la Révolution, ne se contentent pas de paroles en l'air.
Merci Brice Dugénie. Et parmi les autres victimes de ces bombardements, le numéro 2 du HAST, le mouvement irakien pro-Téhéran à l'origine de l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. Les marchés pétroliers de leur côté ont déjà réagi à cette escalade avec une hausse de plus de 4% du prix du brut. Et puis, ce matin, sur RTL, Amélie de Montchalin a réagi. On se réveille dans un monde plus dangereux. La priorité, c'est la stabilité dans la région, a indiqué la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. En bref, Carlos Ghosn aurait quitté seul sa résidence de Tokyo dimanche dernier avant de s'envoler pour le Liban. C'est ce qu'il ressort des images de vidéosurveillance. Selon la télévision Nippon NHK, l'ancien président de Renault-Nissan, lui, est sorti de sa réserve hier pour la deuxième fois. Alors qu'une conférence de presse est prévue le 8 janvier, il s'est exprimé par communiqué en indiquant qu'il avait organisé lui-même sa fuite rocambolesque du Japon, dédouanant notamment sa femme, dont certains avaient pointé le rôle éminent dans cette opération d'exfiltration.
Une pause rapide dans ce journal, puis nous évoquerons l'application du bonus-malus de l'assurance chômage pour les contrats courts, une mise en œuvre qui va prendre un certain temps.
RTL, il est 8h08.
Bonjour. RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal. Yann Boucherie, Yves Calvi.
Au menu des changements du 1er janvier figurait le début du bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats précaires. Alors est-ce que les mauvais élèves vont être réellement sanctionnés ? Eh bien c'est la question du 8h.
Et avec nous Anaïs Bouissou, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était la contrepartie au durcissement des règles pour pouvoir prétendre aux indemnités chômage. Est-ce que le changement est réel ?
Non, il n'y a pas depuis 3 jours de bonus pour les entreprises vertueuses et de malus pour les patrons qui emploieraient des contrats précaires par pelletée. Non, le bonus-malus n'est pas en application. Il n'entrera réellement en vigueur qu'au 1er mars, mais même pas le 1er mars 2020, le 1er mars 2021, dans plus d'un an. En attendant, ce qui est vrai, c'est que les contrats précaires signés au cours de l'année 2020 compteront, ils seront comptabilisés pour dire plus tard si oui ou non les entreprises ont abusé dans leur secteur d'activité.
Alors Anaïs, est-ce que toutes les entreprises sont concernées ?
Ah ben non, l'incitation à réduire les contrats courts, elle va être limitée à 7 secteurs d'activité, parmi lesquels les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires, l'hébergement, la restauration ou encore le transport et le travail du bois. Des grandes entreprises comme Danone, Fleury Michon ou Michelin sont concernés, mais aussi beaucoup de PME, des boulangeries artisanales, des boucheries charcuteries, des hôtels, des entreprises de déménagement et même de fabrication de béton. Mais à elles toutes, toutes ces entreprises ne représentent, selon le ministère du Travail, que 34% des ruptures de contrat de travail, ce qui veut dire que les 2/3 restants ne sont pas concernés par le bonus-malus.
La question de 8h avec Anaïs Bouissou.
Et puisque nous évoquions la difficulté d'appliquer des nouvelles règles, eh bien illustration avec la loi de mobilité bancaire. Elle est entrée en vigueur il y a 3 ans, mais il est toujours aussi difficile de transférer ses comptes d'un établissement à l'autre. 17% des Français en ont exprimé le souhait l'an dernier, mais seulement 2,5% y sont parvenus, selon une enquête du FC Que Choisir.
RTL, 8h11.
Jour après jour, l'Australie s'enfonce dans l'enfer des flammes et le pays se prépare à un véritable exode.
Oui, depuis le début des incendies, c'est un territoire grand comme le Danemark qui est parti en fumée et les feux sont devenus hors de contrôle, notamment dans l'ouest du pays. La population et les milliers de touristes ont reçu l'injonction de quitter les zones les plus dangereuses sur une bande de 300 km, ce qui provoque d'immenses bouchons sur les routes en direction de Sydney et Canberra. L'armée est même obligée d'évacuer par la mer des centaines d'habitants, Grégory Mallet.
Malakuta, station balnéaire à 400 km de Melbourne, où plus de 4000 personnes sont bloquées par les flammes. La marine australienne est arrivée sur place et a une fenêtre d'à peine 24 heures pour évacuer tout le monde avant que les conditions météorologiques ne s'aggravent à nouveau. Il fait actuellement 27 degrés, mais on attend une nouvelle fois des températures au-dessus de 40 demain et surtout beaucoup de vent. Des milliers de personnes ont donc passé plusieurs jours sur la plage après avoir été rassemblées alors qu'il devenait trop dangereux de quitter la ville par la route. Au total et à travers le pays, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont en cours d'évacuation. Un véritable exode comme l'Australie en a rarement vu, comme l'explique André Constance, le député de la région.
En fait, le problème numéro un est de gérer la plus grande évacuation que nous ayons jamais vue.
La tâche est rendue difficile car bien souvent dans le bush il n'y a qu'une route et avec l'afflux des personnes, eh bien, elles sont souvent bouchées, laissant les gens bloqués parfois pendant des heures. De surcroît, l'essence a été rationnée afin de pouvoir servir tout le monde. Mais pour le moment, tout semble bien se passer. Dans le calme.
Le reportage de Christophe Mallet en Australie pour RTL.
Les sports à présent avec un grand week-end de Coupe de France de football au programme.
Début ce soir des 32e de finale avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Bordeaux accueille Le Mans à 20h55. Mais le match que tout le monde attend opposera dimanche soir l'INAS Montlhéry au PSG. Le club de Régional 1, c'est-à-dire la 6e division, accueillera le champion de France à Bondoufle. L'entraîneur des amateurs, Stéphane Cabrelli, est supporter du PSG, ironie du sort, et il en apporte la preuve.
J'ai un chat, ouais. Et puis il fallait bien lui trouver un prénom, donc c'est. J'ai dit, je préfère l'appeler Zlatan que Banane ou je sais pas. Ou je l'appelais Zlatan et il est comme Zlatan, il fait pas mal de bêtises, donc ça lui va bien, je trouve. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'aurais 2 ou 3 messages à leur donner, gentiment, bien évidemment. Ce sera pour la Champions League, je leur. On doit passer les 8e de finale et aller plus loin et qu'on soit fier d'être supporter du Paris Saint-Germain.
Le coup de patte de Stéphane Cabrelli, l'entraîneur de l'INAS Montlhéry avec Baptiste Durieux. Rendez-vous dimanche soir à 20h55 à Bondoufle.
Je précise que la 6e division est une des spécialités de notre rédacteur en chef, Tony Cousin. L'histoire du jour pour terminer.
On reste dans le football. Pour sa carte de vœux 2020 dévoilée sur son site, le club de Nancy a voulu innover avec sur un plan de la métropole le stade Marcel Picot en évidence, accompagné des coordonnées GPS et du slogan « Ma place est ici ». Sauf que ces coordonnées ne correspondaient pas à l'adresse postale du stade, mais à la route qui longe le cimetière tout proche. Le club a réparé son erreur en souhaitant bonne année à ses supporters et surtout une bonne santé, mon cher Yves.
Mort de rire.
Oh oui, ça c'est sûr. C'était...